Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vos chansons ont tellement touché le cœur des enfants que l'on a fini par oublier que vous avez écrit d'autres couplets pour des artistes qui, par définition, demeurent de grands enfants. La vérité s'entend justement de la bouche des enfants. Nous allons aujourd'hui la rétablir. Bonjour Jean-Jacques Debout.
Bonjour Jacques.
Alors, il chante Jean-Jacques Debout, c'est un double album qui est sorti avec vos chansons. Vous ne chantez pas, vous avez écrit pour les autres, on ne le sait pas assez et on va en parler aujourd'hui dans ces clés d'une vie puisqu'on va étudier votre parcours, comme tous les jours, à partir de dates clés issues de ces chansons. D'accord ?
Oui, d'accord.
Alors, dans cet album, il y a plusieurs chansons et il y en a une qui évoque une date, le 30 octobre 1963. C'est la sortie d'un film où il y a cette chanson.
Foulant le sens de ma prairie, chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer.
D'où viens-tu de Johnny ?
Oui.
Avec Pour moi la vie va commencer, dont vous êtes l'auteur.
Auteur et compositeur.
Chanson d'un film de Noël Howard, qui est un film où, en Camargue, Johnny fait du cheval, je crois.
Oui, il arrive sur... le début est à Paris, et comme il est pris dans une affaire de drogue un peu sombre, il décide de repartir en Camargue, où habitent ses parents. Son père est joué par le père de Michel Sardou, Fernand Sardou.
Il y a Sylvie Vartan en coulisses qui est là, on ne sait pas encore que...
Si, il rencontre dans une fête de taureaux, un peu comme une espèce de rodéo, une jeune fille qui lui plaît, et c'est Sylvie. Mais la chanson, c'était Ray Ventura, le producteur du film, et j'avais écrit la chanson dans l'Hôtel de France à Castelnaudary. Quand Ray Ventura, au début, lui avait amené le premier metteur en scène qui a fait un infarctus. Après, c'est pour ça que c'est Noël Howard qui a fait le film. C'était Abel Gance.
Oui, Abel Gance, le metteur en scène de Napoléon, qui devait tourner pour Johnny au départ.
Voilà.
C'est quand même extra.
Et Johnny me dit, qui c'est ce vieux-là que... Enfin, Abel Gance avait la tête de Léo Ferré. On avait l'impression qu'il a... Avec des grands cheveux blancs et tout. On avait l'impression qu'il avait 300 ans, qu'il sortait d'une autre époque. Et alors, il me donne un coup de coude à table. Et puis, il me dit, qui c'est ? Je lui dis, c'est Abel Gance. Il me dit, mais c'est quoi Abel Gance ? Ben, je lui dis, c'est lui qui a fait le plus grand chef-d'œuvre du cinéma français. Si tu arrives à New York un dimanche matin, tu mets la télévision, tu vas voir. On donne souvent Abel Gance, qui est la référence du cinéma français. Et puis, il prend un temps, il me regarde et puis il me dit « Mais tu crois qu'il l'a connu ?»
Napoléon.
Alors, oui. Alors moi, je me suis mis évidemment à rire.
Oui.
Là-dessus, Ray Ventura m'a regardé. Puis il m'a dit « Qu'est-ce qui vous fait rire autant, Jean-Jacques ? Racontez-moi, qu'est-ce qui vous fait rire comme ça ?» Je lui dis « Non, rien, on parle d'une fille qu'on a connue ensemble. »
Vous avez botté en touche. Il faut savoir que Johnny fait du cheval grâce à Charles Aznavour, car il a vécu à ses débuts 2 ans chez Aznavour à Montfort-l'Amaury, qui avait des chevaux et qui lui a appris justement à monter.
J'y allais souvent avec lui.
Et puis Johnny, il doit aussi beaucoup à Jean-Jacques Debout, car c'est vous, grâce à vous plutôt, qu'il a rencontré Sylvie Vartan un soir à Marseille, Jean-Jacques Debout.
Oui.
C'est vrai ?
Oui. C'est vrai, elle venait de terminer... Enfin, il la connaissait, il l'avait vue passer dans les coulisses de l'Olympia.
Il ne l'aimait pas tellement, d'ailleurs.
C'est pas qu'il ne l'aimait pas. Il était assez vague, je dois dire. Et comme je voyageais beaucoup avec lui cette fois-là, je me souviens, il m'avait amené... On avait chanté à l'Opéra de Bordeaux, et puis on avait fait Bordeaux-Marseille. Et en arrivant à Marseille, c'était prévu pour une semaine le spectacle au Théâtre du Gymnase. Et juste derrière le Théâtre du Gymnase, il y avait ce fameux hôtel, l'hôtel de Noailles, qui était tenu par les frères Bory, qui ont fait démarrer Charles Trenet.
Ouais, c'est drôle. Et donc là, un soir,
Sylvie me téléphone et elle me dit « Je suis à Aix-en-Provence et je termine ce soir la tournée... où je suis en première partie de Gilbert Bécaud, et où je rentre à Paris, où je viens te rejoindre. » Alors, je lui dis « Viens me rejoindre, surtout que l'hôtel de Noailles, je vais te prendre une chambre, et ce soir, inaugure une pizzeria. » Et ils m'ont invité avec Johnny, avec les musiciens de Johnny, et tu vas être la bienvenue, ils vont pas s'y attendre, ils vont être contents de te voir, et tout. Et puis moi, j'avais fait installer à côté de Johnny... Et puis voilà, quand, en plein dîner, quand il a vu Sylvie, il s'est mis à lui parler, Il regardait plus ni les musiciens, ni moi, ni rien du tout. Enfin, plus rien ne comptait que Sylvie. Et puis, en arrivant vers le... même pas vers le dessert, avant le dessert, tout d'un coup, ils sont partis tous les deux dans une boîte sur le Vieux-Port que possédait Mémé Guérini, qui s'appelait le Whisky à Gogo. Et ils sont partis là, en plantant tout le monde.
Et ben, il faut savoir que, il faut savoir que cette boîte, en plus, Johnny était allé adolescent avec Lee Hallyday et Desta, qui travaillaient, qui passaient chaque année dans cette boîte.
Ah oui, sûrement. Moi, j'ai connu Desta, j'ai connu Lee, et j'ai connu Johnny quand il ne s'appelait pas encore Hallyday, vous le savez. Et alors, moi, ça m'a fait quand même un petit pincement au cœur. Et surtout qu'à cette époque-là, j'étais assez épris de Sylvie. Puis j'aimais bien lui écrire des chansons. Enfin, j'étais content qu'elle soit venue à Marseille. Et du coup, j'ai fait sortir ma voiture du parking de l'hôtel et je suis rentré dans la nuit à Paris.
Voilà.
Et le lendemain, Stark a appelé, il est tombé sur ma mère. Il lui a dit, il faut que Jean-Jacques prenne un avion, qu'il revienne tout de suite dans la tournée où il y a des affiches de lui partout. Sinon, je lui fais un procès. Et j'ai dit à ma mère, non, j'y retournerai pas. Et je suis resté pendant au moins 2 ans sans reparler à Sylvie ni à Johnny.
Et Sylvie lui avait écrit une chanson que Johnny, d'ailleurs, rêvait de chanter.
Tous mes copains, il faut bien les aimer.
On a été numéro 1.
Numéro 1. Et en plus, Johnny vous a reproché d'avoir donné cette chanson à Sylvie.
Oui, il m'a dit, tu vois ta chanson là, tous mes copains. Il me dit, tu m'aurais donné. Là. Il était au volant de sa Buick. Il l'appelait ma Buick miel, je me souviens. Et c'était sur la même route là, quand on arrivait de Bordeaux pour aller à Marseille. Il me dit, oui, c'est pas mal, mais il me dit, tu me l'aurais donné à moi, tu verrais, j'en aurais vendu beaucoup plus qu'elle. Il me dit.
Et puis alors, il y a une chanson qui n'est pas dans cet album, et j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'est vous qui en avez été l'interprète, ce qu'on ne savait pas.
Et tous les jeudis, en surprise partie, écoutant leur piste.
Chouchou, j'aime bien Johnny, Françoise et Sylvie. Chouchou était le symbole de Salut les copains à l'époque,
oui.
Et j'ai appris que cette voix déguisée, c'était vous, Jean-Jacques
Debout. Oui, oui.
C'est étonnant.
Oui, c'est Daniel Philippe Aki qui m'avait demandé si je pouvais pas faire une chanson sur Chouchou. Et puis, j'avais fait cette chanson-là qui passait à l'époque « Salut les copains ».
Voilà, et on ne savait pas à l'époque que derrière Chouchou, il y avait Jean-Jacques Debout. Et il y avait eu un journal, d'ailleurs Chouchou, qui a duré 10 semaines, un journal de bande dessinée, avec des pionniers de la BD, et il y avait les aventures de Sylvie dedans.
Ah oui, oui.
Ouais, ouais. Et puis, alors, il y a quelqu'un aussi que vous avez connu dans ces années-là, qui était le meilleur copain de Johnny, et pour qui vous avez écrit.
Ma guitare et mes bottes, ma compagnie.
Long Chris.
Long Chris. Vous avez écrit pour Long Chris.
Oui, oui. Dont la fille avait épousé Johnny.
Dadeline Blondeau.
Oui.
Et comment vous avez écrit pour Long Chris?
Parce que comme je voyais souvent Johnny, il a fait partie des premiers copains que Johnny voyait à Pigalle et à la Trinité. Et puis il traînait au Golf Drouot avec Johnny. Alors, comme moi, j'allais aux éditions Raoul Breton qui touchaient le Golf Drouot, c'était la rue Rossini, c'était. Je voyais l'oncle Chris, puis un jour il m'a dit « Oh, tu peux pas m'écrire une chanson un petit peu cow-boy, un peu comme ça si tu veux. » Et c'est comme ça que je lui ai écrit cette chanson, ma guitare et mes bottes.
Et l'oncle Chris, il continue à faire des concerts de temps en temps. Il a écrit un album de chansons bizarres, poétiques, qui est sorti l'an dernier. Et il prépare un livre sur Johnny pour l'instant.
Ah bon, c'est une bonne idée.
Oui, c'est un de plus, mais enfin, il a des souvenirs très précis et authentiques. Et Johnny adorait les westerns. Et d'ailleurs, il était, alors qu'au début, il ne connaissait pas le cinéma, il était ensuite incollable sur les westerns. Et quand Johnny vous invitait chez lui à voir des films, vous en aviez pour la nuit.
Oh là là, et des fois 3 jours.
Ah bon?
Ah oui, quand il allait dans son sous-sol, dans sa salle de cinéma, ça durait, mais moi je me souviens, j'appelais Chantal, je lui disais « tu m'attends pas pour dîner ». Et une fois, ça a duré tout un week-end. Je suis arrivé un vendredi soir et je suis rentré que le dimanche soir chez moi.
Voilà.
Il me passait des westerns sur westerns, mais il y en avait des beaux. Hein.
Ah oui.
Il se trompait pas, hein. C'était pas les moches hein, qu'il aimait. C'était de John Ford, c'était... Non, il avait une culture de western formidable.
Et vous avez une culture musicale qui est dans cet album, dont on reparle dans quelques instants, avec une date le 13 juillet 1948.
À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle des chansons de Jean-Jacques Debout, mais qu'il a écrit pour les autres. Avec cet album, il chante Jean-Jacques Debout, qui est sorti chez Marianne Mélodie. Alors une date qui ne vous concerne pas directement, mais quand même, c'est le 13 juillet 1948. C'est l'ouverture d'une pâtisserie sur la Butte, dont la patronne, à la voix, vous la connaissez.
Dans ton nouveau pays.
Patachou, Patachou, la grande Patachou.
Je quitterai Paris, chanson que vous avez écrite pour Patachou.
Absolument.
Mais c'est fou ça, vous avez écrit pour Patachou.
Ben oui, parce que c'est elle qui m'a fait débuter au cabaret.
Oui.
Elle avait été la secrétaire de Raoul Breton.
Oui.
Et elle s'appelait Henriette.
Henriette Ragon, oui.
Oui, et un jour elle a tapé le manuscrit de « Que reste-t-il de nos amours » de notre ami
Charles Trenet.
Charles Trenet. Et puis il y avait... comme on dit, une coquille, je sais pas, il y avait quelque chose qui... Et comme Charles, que vous connaissez très bien, était quelqu'un qui était très, très à cheval sur ce qu'on appelait les fautes d'orthographe, alors, ou même une virgule. Et il lui dit, ah non, non, Henriette, il y a quelque chose qui va pas là. Alors elle lui dit, mais non, Charles, que non, je me suis pas trompé. Et là, elle lui dit, elle lui fait... Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Je me trompe pas, c'est bien ça. Il dit, mais vous avez une voix formidable. Je vais chercher Raoul Breton. Il va chercher son éditeur, Raoul Breton, et il lui dit, il faut qu'elle chante. Écoutez la voix qu'elle a, elle a une voix de merveille. C'est formidable. Aucune femme chante comme elle. Et c'est Charles qui l'a poussée à chanter. C'est comme ça qu'elle a rencontré Jean Billon, son mari, et qu'ils ont monté à l'arrière d'une pâtisserie rue du Mont-Cenis, le fameux cabaret chez Patachou. C'est là où j'ai rencontré Jacques Brel.
Qui débutait.
Et qui débutait aussi.
Brassens qui a débuté là.
Oui, mais ça, moi, je suis passé après. Ouais. Hein. C'était pas la même époque.
Mais Brel était là, personne ne le connaissait. Elle, en plus, elle avait, dès qu'on arrivait, elle coupait votre cravate pour l'accrocher au plafond.
Oui, surtout des Américains.
Voilà.
Parce que quand les Américains revenaient, c'était des touristes la plupart, mais... quand ils revenaient à Paris, ils revenaient chez elles pour voir si leur cravate était toujours accrochée derrière le bar.
Trenet a repéré Patachou, mais il vous a repéré aussi, je crois, un jour sur la Butte où vous chantiez dans un radio-crochet.
Quand Paris s'éveille au mois d'avril, quand le soleil revient...
Tu merveilles, c'est bien.
Et vous chantiez cela, vous aviez 14-15 ans, Jean-Jacques Debout.
Oh oui, j'avais 12 ans.
Oui, et il vous a repéré et...
Bah oui, c'était le concours des Poulebots de Montmartre.
Oui.
Et alors, justement, qui était organisé par Patachou. Patachou, qui venait de lancer son cabaret, c'est très peu de temps après ça qu'elle lance Georges Brassens.
C'est ça. Et donc, Trenet vous a repéré. Et
alors, j'ai chanté en avril à Paris parce que ça se passait le 1er avril.
Oui.
Et comme j'adorais cette chanson, je l'entendais à la radio et j'avais dit à ma grand-mère qui m'avait inscrit, parce que ma grand-mère était responsable de l'imprimerie du journal L'Humanité rue du Croissant. Et alors, il y avait L'Humanité qui collaborait avec ce Radio Crochet. Comme elle savait que je n'aimais qu'une chose, c'était de chanter, elle m'a dit « Je t'ai inscrit dans le concours des Poulebots de Montmartre. Mais qu'est-ce que tu vas chanter ?» Et il y avait un petit éditeur rue du Croissant qui s'appelait L'Abbé. Je me souviens qu'il était peint en bleu. Et il y avait le petit format breton avec le visage de Charles Trenet en avril à Paris. Et je me suis dit, ben voilà, je vais chanter en avril à Paris.
Et c'est comme ça que vous avez
gagné.
Et c'est comme ça que vous avez débuté et que vous avez connu plein de gens, dont Marlène Dietrich, parce que vous avez quand même fait l'Olympia avec Marlène Dietrich.
Ah oui.
Et les répétitions, c'était quelque chose, je crois, à Jean-Jacques Debout.
Oh là 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 là. Elle m'avait fait refaire toutes mes orchestrations par Burt Bacharach, qui était son pianiste.
Oui.
Burt qui a écrit je ne sais pas combien de musiques de films internationales. Et puis, elle m'a emmené en tournée avec elle partout, dans le monde entier. Et puis, elle m'a surtout emmené à Berlin quand elle est revenue chanter, donc après la guerre, où elle n'était pas revenue, et où Kennedy avait fait mettre tous les soldats depuis l'avion où on était arrivé, depuis l'avion jusqu'au théâtre municipal de
Berlin.
De Berlin, bien sûr. Et tout le public était devant le théâtre, mais personne n'osait rentrer. Et même Marlène, elle m'a dit, c'est bizarre, personne ne rentre, qu'est-ce qui se passe quand on est arrivé avec la voiture? Et puis Helmut Schmidt,
oui.
Qui était
le chancelier,
quand il est arrivé avec sa femme, il est entré dans le théâtre et tout d'un coup, tous les gens l'ont suivi. Et alors quand on est arrivé, il y avait un télégramme qui l'attendait de John Kennedy. C'était quelques mois avant l'assassinat.
Oui. Ouais.
Et il lui met, chère Marlène, j'espère que tu es fière des soldats américains qui t'ont bien escorté. Et il lui met, commence ton tour de chant par l'ange bleu et tu verras, ils oublieront tout. Et ça se passera bien, je t'embrasserai fort, John Kennedy. Et elle me dit, descendez dire à Burt Bacharach qui change l'ordre de mon tour de chant. Il faut que je commence par l'ange bleu, puisque c'est le vœu de John Kennedy.
À propos de télégramme, le jour, vous savez que Greta Garbo et Marlene Dietrich se détestaient, c'était à qui mourrait le premier.
Oui.
Et quand Greta Garbo est morte, Charles Trenet a envoyé un télégramme à Marlene Dietrich, Greta Garbo est morte, félicitations, signé Charles Trenet.
Oui.
Et puis, il y a une autre meneuse de revue aussi, qui vous doit une chanson, bleu, blanc, rouge.
Si tu viens à Paris, viens voir le défilé. Il n'y a qu'à Paris que tu verras passer
Zizi Jeanmaire.
Zizi Jeanmaire, la grande Zizi Jeanmaire.
Qui a 95 ans aujourd'hui,
oui, oui.
Qui est toujours en vie, et qui
oui.
a été une grande meneuse de revue, et pas seulement avec Mon truc en plume à l'Alhambra.
Ah non, énorme. Elle était vedette dans le monde entier. Hein.
Oui.
Elle a été une Carmen aux États-Unis, qu'elle a jouée pendant plus de 2 ans à Broadway. C'est une femme que j'adorais, elle travaillait, mais jamais vu. C'était un bourreau de travail, Zizi Jeanmaire. Et en même temps, elle était très belle sur scène. Et j'avais écrit donc cette revue qui, pour Roland Petit, qui s'appelait La Revue. Et puis, c'est Yves Saint-Laurent qui avait dessiné les costumes. Et le soir, moi, j'habitais rue des Saints-Pères à l'époque. Et le soir, Yves Saint-Laurent venait avec Roland Petit. Et Pierre Berger, évidemment, et il venait à la maison et je jouais les nouvelles chansons. Pour pendant ce temps-là, Yves dessinait les idées qui lui venaient pour les costumes, pour cette revue qui est restée 2 ans et demi à l'affiche.
Et puis à propos de revue, il y a quelqu'un qui a été parodié, justement, Zizi Jeanmaire a été parodié chez quelqu'un qui nous manque, et vous avez écrit pour lui, signé Michou.
Je vous aime, je vous adore, vous savez mes petits chéris.
Moi, je me souviens de Michou ne voulant pas chanter. Et là, au départ, et finalement, il a fait plein de chansons, dont celle-là.
Oui.
Vous étiez chez Michou régulièrement aussi, Jean-Jacques Debout ?
J'ai connu Michou, voilà l'histoire. C'est que quand je passais chez Patachou, c'était 59. Et il y avait un bistrot, Place du Tertre, qui s'appelle sûrement toujours Le Clairon.
Oui.
Et dans ce bistrot, il y avait tous les fous de Montmartre. Et alors, il y en avait un qui arrivait, il était habillé en Fraxon. Il s'habillait comme Fraxon, et puis il chantait. Et un jour, je lui dis, mais en dehors de Fraxon, mais vous vous appelez comment? Et il me dit, je m'appelle Michou, mais je ne veux pas faire Fraxon pendant longtemps, parce que j'ai trouvé enfin un endroit où je vais monter un cabaret qui va s'appeler Chez Michou. Et ce jour-là, Jacques Brel était à côté de moi. Brel avait commandé un sandwich, il était avec moi. Et il nous a dit, si vous voulez, j'ai les clés, je vais vous emmener le voir. Et il nous a emmenés, il n'y avait rien, hein, il y avait juste 3 ampoules, il y avait une lampe électrique, mais il avait quand même il avait demandé à Brel ce qu'il voulait boire. Alors Brel, il voulait une bière, il était belge. Hein. Et puis il a été chercher des bières, il a été chercher des trucs comme ça. Et puis on a pris un verre. Et alors, Brel avait pris l'habitude, après ses tours de chant, très tard, il avait l'habitude de terminer chez Michou. Il s'installait au fond, pour pas que les gens le reconnaissent, pour être tranquille. Il s'installait au fond, et avec Michou, on prenait des verres. Et voilà, ça a commencé comme ça.
Et oui, et ça a continué aussi avec d'autres. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 5 juin 1970. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie avec Jean-Jacques Debout, avec les chansons que vous avez écrites pour les autres à l'occasion de la sortie de ce double album chez Melody. Une date 5 juin 70, je l'ai retrouvée. C'est une première dans un cabaret qui s'appelle Le Patriote à Québec. Et vous êtes là avec celle-ci.
Hop là, sur un long corps, une curieuse petite tête, une longue tige, une vraie
femme. Ma chère Barbara.
Oui, vous avez écrit pour Barbara?
Ah oui, plusieurs chansons.
Oui, parce qu'en départ, elle écrivait toute seule, théoriquement.
Oui, non, là, elle m'avait demandé de lui écrire... Ah oui, parce qu'elle avait rencontré Maurice Béjart.
Oui.
Et Béjart, lui, qu'il l'adorait, hein. Et il avait remarqué qu'elle avait une façon de bouger qui était proche de la danse. Et alors, elle lui avait dit, ben Maurice, pourquoi vous me faites pas une chorégraphie pour une ou deux chansons? Et alors, il lui avait dit, je voudrais un rythme, Barbara, il vous faudrait un rythme un peu musical, un peu. Alors, elle m'avait dit, fais-moi une musique très musical. Alors, j'avais été chez elle et puis je lui avais fait. Ben, c'était l'époque où je travaillais pour Zizi Jeanmaire, je me souviens. Et puis, je lui ai fait cette musique. Et puis à la fin, elle me dit « T'as pas un peu faim ?» Alors je lui dis « Bah si, on peut aller manger un petit truc quelque part et tout. » Et puis je referme le clavier de son piano noir. Elle habitait Boulogne à l'époque. Et puis je fais « Allez, hop là, on y va !» Et elle fait « Ah, hop là, ça y est, la chanson va s'appeler Hop là !» Et voilà comment cette chanson s'est appelée Hop là.
Alors, vous arrivez au Québec avec elle, elle vous a proposé de venir chanter avec elle,
oui.
Et vous allez lui présenter un copain d'enfance très particulier, Jean-Jacques Debout, et ça va être un vrai calvaire pour elle.
C'est-à-dire que ça s'appelait Le Patriote, c'était un petit théâtre en fait, mais... Et puis un soir, je sors et il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « C'est toi, Jean-Jacques Debout ?» Alors je lui dis « Oui, oui ». Il me fait « Viens voir, viens voir ». Et puis alors, moi, je m'approche vers une voiture. Je me souviens, c'est une Lincoln noire, la même que le président Kennedy. Et alors ça m'avait même intrigué. Et puis tout d'un coup, la porte s'ouvre et le type me prend par les bras et il me précipite à l'arrière de la voiture. Là, je me retrouve à côté d'un garçon qui avait une cagoule et qui, visiblement, ne parlait pas avec sa voix normale. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me fait, wesh, allez. Et il dit au chauffeur, il lui dit, allez, fonce, fonce, fonce. Il lui donne même une claque au chauffeur parce qu'il trouvait qu'il n'allait pas assez vite. Et on était sur l'avenue de Sherbrooke. Je me suis même dit, on va rentrer dans un magasin, on va se tuer, ça va être épouvantable. Et puis, finalement, on est arrivé dans la forêt. Et puis là, dans la forêt, il y avait une espèce de petite guinguette qui s'appelait Chez Clairette. Et là, il me dit, descends. Alors, je descends de la voiture. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tourne-toi. Alors, je me tourne. Il me fait, retourne-toi. Alors, je me retourne une deuxième fois. Et là, il me dit, regarde. Et là, il retire sa cagoule et je reconnais Jacques Mérine, que j'avais connu au collège de Juilly quand il avait 9 ans,
oui.
Et quand moi j'avais 6 ans.
Et qui était recherché par toutes les polices au Québec.
Ah oui, oui, pas qu'au Québec. Il était recherché par Interpol parce que c'est l'époque où il avait étranglé 3 gardes forestiers,
oui.
Devant le lac Saint-Laurent.
Et donc, il voulait vous retrouver et vous avez...
Ah non, il m'a dit, quand j'ai vu ton nom sur le parvis de cette boîte, j'ai dit à mon garde du corps, il m'a dit, je lui ai dit, il me le faut, c'est mon copain d'enfance, tu te rends pas compte, je me fais tellement chier ici que je veux à tout prix lui parler. Alors, bon, là, il y a eu un espèce de petit scandale chez cette fameuse clairette, qui en plus m'avait connu à mes débuts parce que c'est elle qui plaçait les gens chez Patachon.
Oui.
Et c'était une grande amie de Brel, du reste. Et elle me dit, c'est bête que tu ne sois pas venu il y a une semaine parce que Brel était là, il était là tous les soirs. Et il m'a offert cette télévision, elle me dit, il y avait une télé qui marchait. Enfin, voilà. Et alors, je dis donc à Jackie, parce que moi, je n'ai jamais appelé Jacques Mérine. Et depuis le collège, je l'appelais Jackie, je lui dis, il me dit, est-ce que je peux venir te voir chanter demain? Donc, le lendemain, il est venu me voir chanter. Et puis j'ai dit à Barbara, on allait dîner après dans le vieux Montréal, la place Jacques-Cartier, dans un restaurant qui s'appelait Chez son père. Et puis là, à table, il s'est passé un drôle de... Alors j'avais dit à Barbara, c'est un copain de collège qui s'emmerde à Montréal, mais je lui avais pas dit qui c'était, ni qu'il était recherché. Alors elle me dit, je lui dis, ça t'embête pas qu'il dîne avec nous ? Elle me dit, bah non, c'est un copain à toi, au contraire.
Ben voyons.
Et puis à un moment, elle le regarde, elle lui dit, alors vous avez connu Jean-Jacques quand vous étiez petit, en fait ? Il dit, oui, il avait 6-7 ans, moi j'allais sur mes 9 ans. Ah oui, bah bien sûr, mais j'ai toujours connu Jean-Jacques. Ah bon. Et il lui dit, vous savez, elle lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là à Montréal ? Bah, il dit, je suis là pour des affaires assez importantes. Et puis, je m'emmerde un peu ici. Et puis, j'ai une femme que j'aime tellement, qui est à Paris. Et pour ne rien vous cacher, c'est quand même bizarre, la vie. Il lui dit, j'écoute très souvent votre chanson, « Dis, quand reviendras-tu ? » Si vous pouviez me la chanter. Alors elle lui dit, bah, écoutez, je sais que vous êtes un ami de Jean-Jacques, j'aime beaucoup Jean-Jacques, mais vous savez, je ne chante jamais à table et encore moins avec la bouche pleine. Et tout d'un coup, il lui dit, ah, vous voulez pas chanter ? Il met ses mains sur son cou comme s'il allait l'étrangler. Et moi, je lui arrache le bras parce que j'ai eu peur quand même. Alors il m'a fait un coup d'œil comme quoi, non, c'était pas tout à fait ça. Oui. Et alors là, Barbara... Elle me regarde et puis elle me dit, mais dis-moi, Jean-Jacques, t'en as pas un deuxième à me présenter comme ça ?
Et voilà. Alors, il y a d'autres femmes pour qui vous avez écrit des chansons, et il y a quelqu'un qu'on connaît bien, et surtout on connaît le mari, pour qui vous avez écrit 24 heures de toi.
24 heures de toi, ce n'est pas la peine. 24 heures de toi, je...
Dany Saval, qui a été comédienne, d'ailleurs qui a commencé avec
mignonne.
Johnny dans Les Parisiennes,
oui.
Et vous lui avez écrit une chanson.
Absolument, parce que j'aime beaucoup Dany Saval. J'étais à l'école avec elle.
Oui.
J'ai d'abord été à l'école du spectacle avec elle. On n'arrêtait pas de rire. Et puis, je l'ai retrouvée au cours Simon un peu plus tard. Et j'ai même joué dans une revue, dans un cinéma près de la Bastille.
Oh, elle a fait des tas de choses, tas de revues.
Des trucs incroyables. J'ai toujours beaucoup ri avec elle. On prenait le métro ensemble, on chantait. Il y avait avec nous Marie-Josée Natt, qui nous a quittés malheureusement. Et qui était très mignonne, que j'aimais beaucoup. Et puis, un jour, elle me dit, tu veux pas m'écrire une chanson ? Alors, je lui écris 24 heures de toi. Voilà.
Et ce qui est étonnant, une autre grande comédienne vous a chanté aussi, Mireille Darc.
Les hommes, vous n'êtes pas parfaits. Les hommes, vraiment, j'en ai assez. Mais les hommes, je ne sais pas pourquoi.
Alors ça, franchement, on connaît la biographie de Mireille Darc, sa filmographie. À les hommes, ça vient d'où, Jean-Jacques Debout ?
Eh bien, c'était une émission qui s'appelait Les Plâtriers,
oui.
qui était faite par Raoul Sangla. Raoul Sangla, qui était le réalisateur de Denise Glaser.
Oui, de Discorama.
De Discorama. Et j'aimais beaucoup Raoul. J'aime toujours beaucoup. Qui est un Basque. Un Basque un peu sanguin, un peu, mais drôle, comme... Je crois que tout le monde sait que quand les Basques ont de l'humour et quand les Basques sont drôles et talentueux, ce qui est le cas de Raoul Sangla, on ne peut pas s'en défaire, je veux dire. Et alors un jour, il m'appelle et il me dit « On va tourner chez toi ». À l'époque, je venais de trouver un appartement qui était assez grand, du reste, et où il fallait tout refaire, parce que depuis la guerre de 14-18, il n'avait pas été habité.
Vous avez eu plein d'appartements que vous avez toujours refaits et quittés.
Oui, rue des Saints-Pères. Et alors, il m'a dit surtout, avant que tu refasses, que tu le repeignes, il est tellement drôle cet appartement que je voudrais y tourner mon émission, Les Plâtriers. Et il y aura Mireille Darc, et si tu pouvais lui écrire une chanson, et voilà comment j'ai écrit cette chanson pour Mireille Darc.
Et Mireille Darc, sa robe du grand blond qu'elle porte et qui a fait sa gloire, c'est elle qui l'a choisie chez Guy Laroche en demandant que derrière, le décolleté tombe le plus bas possible.
Ah bah oui, bien sûr.
Elle a été...
Moi, elle était belle, elle était ravissante.
Alors, dans cet album, il y a une chanson qui me surprend quand même, parce que c'est une chanson en anglais par Marianne Faithfull, Jean-Jacques Debout. Alors ça, inconnu au bataillon aussi, They Never Still Leave You par Marianne Faithfull, signé ouais. Jean-Jacques Debout.
Oui, parce qu'un jour, j'enregistrais à Londres, j'étais parti là-bas avec Sylvie, c'est là où il y a eu la fameuse séance où il y a eu Comme un garçon.
Avec Carlos qui a chanté.
Qui sifflait
oui.
Avec moi.
Oui.
On sifflait tous les deux les... Et puis dans le studio d'à côté, il y avait Marianne Faithfull. Et j'avais écrit une chanson avec André Pop, qui lui avait fait était en plein succès avec Love is Blue.
Oui, L'amour est bleu, qui L'amour est un succès bleu.
Mondial.
Auteur également de Piccolo Saxo et compagnie.
Absolument.
Et comment on refait l'histoire? L'histoire, elle va continuer avec une date, le 3 janvier 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Debout.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Jacques Debout, 3 janvier 2020, chez Marianne Melody, sort Il chante Jean-Jacques Debout, deux CD réunissant des couplets que vous avez écrits mais que vous n'avez pas interprétés. Vous avez finalement écrit beaucoup, beaucoup de chansons, Jean-Jacques Debout.
Bah oui, à un moment j'en écrivais à peu près 16 par semaine.
Oui.
Parce que j'écrivais beaucoup pour Mariti et Gilbert Carpentier.
Pour les tops et numéro 1.
Absolument. Et alors, il y avait l'ouverture, il y avait le milieu de l'émission, puis la fin. Et puis ça finissait par faire 15-16 chansons. Et moi, j'aimais bien. J'aimais beaucoup parce que, en fait, moi, ma vie, c'est la musique. C'est la musique, les chansons, le musical. Et puis j'adore parler et j'adore travailler avec les artistes. Je préfère les artistes à moi, parce que moi, je ne suis pas mon type d'homme. Hein. Franchement, ben oui. Alors, je suis plus à l'aise avec les autres artistes.
Bien sûr. Alors, il y a quand même beaucoup de chansons. Comment avez-vous choisi toutes les chansons qui composent ce double CD? Il y en a 48, ce n'était pas évident.
Non, ce n'était pas évident, mais quand on a envie... Oh, puis il se trouve que... C'était des occasions, je veux dire. Quand Mireille Darc m'a appelé pour me dire « Il faut prendre ma tonalité parce que je vais chanter dans l'émission de Raoul Sangla », moi, ça me faisait plaisir. Et alors, puis je voulais bien faire parce que j'aimais beaucoup Mireille Darc.
Et il y a quelqu'un que vous aimiez beaucoup, qu'on aimait beaucoup, qui est dans cet album et qui nous manque.
Merci, merci. Maman, papa, maman, papa, si je vous dois la chance d'être là.
Thierry Leluron, on connaît l'imitateur, mais on oublie qu'il a commencé par chanter d'abord au jeu de la chance, et que finalement son rêve secret, et qu'il n'a jamais pu concrétiser, c'était de faire une revue avec des chansons. Il en a fait une, Thierry Féerie, mais qui n'a pas été un grand succès.
Si.
Oh, c'était,
ah, pendant un mois, elle était prévue pour un mois.
Oui.
Je sais, puisque c'est moi qui lui ai écrit la plupart des chansons.
Au Palais des Congrès.
Merci. Oui, au Palais des Congrès. Et ça a très bien marché. Non, ce qui n'a pas marché, c'est qu'il devait en faire une tournée.
Oui.
Roland Hubert devait l'emmener en tournée, ce spectacle. Et il y avait tellement de musiciens et tellement de choses,
voilà,
hein, que ça coûtait trop cher par rapport à la rentabilité. C'est ce que m'avait dit Roland Hubert. Et évidemment, Thierry a été un peu déçu parce qu'il voulait le faire en tournée. Mais au Palais des Congrès, pouvez-vous renseigner?
Ah non, mais je sais, j'y étais, donc je m'en souviens
non,
très
non,
bien.
Non, mais ça a très très bien marché. Il y avait justement cette chanson.
Oui, et Thierry, ça faisait partie de vos amis du jour et de la nuit. Parce que Thierry, c'était la nuit. Quand on est dans son appartement de Saint-Germain-des-Prés, qui faisait 1000 mètres carrés, il y avait le tout Paris. Lui allait se coucher d'ailleurs dans son lit à baldaquin avec ses petites voitures à côté. Et tout le monde restait.
Tout le monde restait, tout le monde se servait. Il y avait sa mère qui était là. Alors un jour, sa mère, elle me prend à témoin. Enfin, elle me dit « Jean-Jacques, je peux vous parler ?» Alors je lui dis « Oui ». Elle me dit « Je suis très en colère après Thierry, parce que tous les soirs, il invite tout Paris. Il leur sert du foie gras, il leur sert ci, il leur sert ça. Et puis alors, du caviar, et puis... Mais, vous savez, les rillettes du Mans, c'est pas mal non plus, elle me dit. Alors j'avais répété ça à Thierry. Il m'avait dit, attends, je vais aller la voir. Il arrive dans la cuisine, il y avait sa mère, parce que c'est sa mère qui préparait tout ça. Puis il lui dit, dis donc, maman, de quoi tu te mêles? Tu vas quand même pas m'imposer des rillettes du Mans contre du foie gras. Moi, j'invite des amis. Les amis, c'est ma famille, tu comprends? Et puis c'était engueulé avec sa mère.
Et moi, je viens de Louis...
Tout ça pour des rillettes du Mans.
Voilà. Et je viens de Luis Mariano invitant au Lido des gens importants. Sa mère était là, elle voit l'addition à la fin. Et quand elle voit le montant de l'addition, elle dit, bah, maintenant, toute la semaine, on va manger des pommes de terre pour s'attraper. Alors, il y a également quelqu'un, et on ne sait pas assez que cette chanson est de vous, mais elle vous correspond tellement, c'est comme disait Miss Tinguette.
Comme le disait la Miss Tinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça.
Ça, une chanson de revue. La revue, bah, vous en êtes un maître, Jean-Jacques Debout.
Mais, oui, mais cette chanson est née aussi pour un numéro 1.
Oui.
Dédié à Dalida, chez Mariti Carpentier. Et Pascal Sevran m'avait téléphoné Et il m'avait dit, écoute, j'ai dîné hier soir avec Dalida et son frère Orlando. Et on a parlé du numéro 1 qui va avoir lieu dans un mois. Et Dali, qui te connaît bien, moi, j'avais fait 5 tournées où j'avais fait ses premières parties avec elle, produites par Roland Hubert. Et j'aimais beaucoup Dalida. Je m'entendais bien avec elle. Ça faisait rire, elle me faisait rire. On allait même jouer tous les deux au casino, des fois. Enfin, j'aimais beaucoup cette femme.
Oui.
Et elle aimait bien ce que je faisais. Et alors, elle avait dit à Pascal Sevran, lui avait dit, écoute, appelle Jean-Jacques et dis-lui qu'il me fasse une chanson très musicale. Parce que, comme je vais faire le Palais des Sports après le numéro 1, je pourrais terminer mon spectacle au Palais des Sports avec une chanson très musicale. Et c'est comme ça qu'on lui a fait, comme disait la Miss Linguette.
Voilà, où elle se parodie sans le moindre problème.
Ah oui, oui.
Et puis alors justement, vous parliez de son frère Orlando, il a chanté et vous avez écrit pour lui, Jean-Jacques Debout.
Depuis l'été, je voulais t'embrasser.
Orlando, le frère de Dalida, qui a chanté pendant 5 ans.
Oui. Je l'avais rencontré aux éditions Breton.
Oui.
Et la marquise,
Madame Breton,
m'avait dit, Jean-Jacques, Dalida a un frère qui chante aussi bien qu'elle. Elle m'avait dit, il faut lui faire une chanson. Et j'avais fait cette chanson-là pour lui.
Et à l'époque, il a fait 5 ans de carrière. Il est devenu ensuite directeur artistique. Il avait fait Yahya Mustapha avant Bob Bazam, qui est devenu Fais-moi du couscous, chérie, qui a été un immense succès.
Immense.
Voilà. Et il a arrêté de chanter. Il y a plein de gens comme ça qui ont arrêté de chanter que vous avez retrouvé ensuite.
Ah bah oui.
Dans cet album, il y a des chansons de Marjorie Noël qu'on a totalement oubliées en France et qui est star au Japon. Il y a plein de gens.
Oui, mais bah, par exemple, Sheila, moi j'ai connu Claude Carrère quand il chantait au cabaret.
Oui.
Quand il chantait « Si on me dit que t'as une belle gueule, ne crois pas que tu seras toujours beau gosse, ne crois pas que ta jeunesse durera. » Puis alors il partait en claquant les portes du cabaret et tout. C'était à l'échelle de Jacob.
Oui.
Chez Madame Lebrun.
Madame Lebrun qui avait fait débuter Le Luron et Brel. Et quand Brel a terminé cette tournée, il est retourné chez elle.
Oui, et elle a fait débuter Bernard Tapie.
Exactement, qui débutait dans la chanson.
Absolument.
Et puis, il y a une jeune femme dont on a tous été amoureux dans les années 60 quand elle chantait. C'était Christine Lebail qui chantait La Permission de minuit.
Moi, mes parents m'ont puni pour avoir trop dépassé La Permission de minuit.
Alors ça, les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, mais il y a toute une génération d'enfants qui a adoré Christine Lebail et vous avez écrit cette chanson.
Elle avait un charme fou, elle était jolie comme tout. Et oui, j'ai écrit cette chanson. Je l'avais rencontrée à la Tour Eiffel. Je sais pas ce que...
Un restaurant, oui,
oui
un cabaret.
Au restaurant, elle était venue me voir à table et puis elle m'avait dit, je prépare un disque chez les disques AZ. Qui appartenait à Europe 1.
Oui, à Lucien Maurice.
À Lucien Maurice. Et est-ce que vous ne pouvez pas m'écrire une chanson ? Et c'est comme ça que je lui avais écrit La Permission de minuit, qui avait très bien marché.
Et elle a fait une petite carrière, et une belle carrière. Aujourd'hui, elle vit à Nice, où elle est en train d'écrire des livres. Et elle a toujours le même charme, et elle a envie encore de faire des choses.
Je vais bientôt prendre un train pour aller la retrouver.
Et à cette même époque, vous avez écrit une chanson pour Christophe, l'une des premières chansons de Christophe.
Excusez-moi, monsieur le professeur, si je ne connais pas mes leçons par cœur, si je me tiens debout tout au fond de la classe, c'est parce que je n'aime pas faire les choses à moitié.
Ça, c'est une chanson étonnante aussi.
Oui, parce que je trouvais que ce Christophe chantait remarquablement
il
bien.
Il débutait à l'époque, c'était Aline. Oui.
Oh, ça faisait peut-être 2 ans oui. qu'il commençait à faire des disques. Et puis à l'époque, la mode, c'était d'avoir une Mustang. Alors, tous les chanteurs à la mode du début des années 60 avaient tous une Mustang. Alors, Claude François en avait une rouge, Hugo Frey en avait une verte, moi j'en avais une blanche, Richard Anthony en avait une noire. Et un soir, on avait fait une course dans le bois de Boulogne, comme ça, de Mustang, et il y avait Christophe, évidemment, qui avait aussi une Mustang, et c'est Christophe qui avait gagné. Moi, j'ai cru qu'il allait se tuer contre un arbre et tout. Et alors après, on a terminé au Saint-Hilaire chez François Patrice.
Une discothèque de l'époque.
Oui, et puis il m'a dit si on faisait une chanson ensemble, Jean-Jacques, ça me ferait plaisir. Je prépare un album, je prépare un disque, et c'est comme ça qu'est née cette chanson.
Et c'est une chanson que les enfants maternels chantaient à leur professeur. Excusez-moi, monsieur le professeur, c'est
ouais,
assez étonnant.
Absolument, oui.
Ça ne correspondait pas à votre vie. Vous n'avez pas eu un professeur qui vous
ah, si, si, je me bats au collège de Juilly. Qu'est-ce que j'ai pris ouais. J'avais 3 ans de retard, alors déjà, déjà, ça plaisait pas trop au professeur, mais je me suis fait tirer les oreilles plus d'une fois, oui.
Et puis, il y a aussi une chanson que d'autres enfants ont aimée beaucoup plus tard. Cette chanson, elle est mythique, c'est Capitaine Flamme.
Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit.
Ça, alors ça,
ah, oui.
C'est alors, ça, Richard Simon.
Oui, c'est Richard Simon qui était un choriste, qui n'est plus de ce monde, malheureusement. Un choriste que j'utilisais souvent pour les numéros 1, et puis pour les spectacles de Chantal. Il a fait des voix pour les spectacles de Chantal. Et le producteur Bruno Huchez avait acheté 59 épisodes d'un manga qui s'appelait Capitaine Flamme, mais la chanson n'était pas du tout pour les oreilles françaises. Alors il m'avait appelé, puis il m'avait dit, voilà, lundi à 9h du matin, il faut que je monte le générique et la chanson des trucs de Capitaine Flamme, enfin des épisodes. Jean-Jacques, est-ce qu'en 2 jours, tu peux me faire la chanson enregistrée, prêt à monter lundi à 9h du matin? Et parce que la série était déjà programmée sur Antenne 2, chez Dorothée, je crois, au Club Dorothée. Et je suis rentré au studio du Palais des Congrès un dimanche matin à 9h. Et à minuit, j'avais terminé la chanson qui est devenue Capitaine Flamme.
Voilà. Qui a été un succès partout, qui est encore chantée aujourd'hui dans les discothèques gays.
Ah oui.
Où a redébarré celle qui aujourd'hui remplit des salles de zénith en France. Et si Dieu sait si on est content et si ça vous surprend quand même, et bien sûr, elle est présente dans cet album.
Adieu les jolis foulards.
Chanson qui est reprise en chœur par 4 générations aujourd'hui, oui. Car il faut savoir que Chantal Goya fait des zéniths dans toute la France et que c'est plein partout.
Partout.
Comment ça vous surprend même oui. Je vous sens étonné.
Bah, étonné, oui et non, parce que je vois bien le public avec elle. Finalement, c'est comme s'ils venaient voir une parente de province. J'ai l'impression qu'ils viennent voir une parente à eux, mais qu'ils ne viennent pas voir forcément une artiste. Bien qu'elle soit très artiste, mais c'est très bizarre le rapport qu'elle a avec le public.
Et à chaque fois, vous êtes là, et les enfants comme les grands-parents chantent tout ce que vous n'auriez jamais imaginé quand vous avez écrit « Adieu les jolis foulards », Jean-Jacques
Debout. Non, c'était une chanson que j'ai faite au dernier moment pour remplacer une chanson que devait chanter Brigitte Bardot.
Avec Carlos, je crois.
Avec Carlos, oui. Dans le numéro 1 que j'avais préparé pour Carlos et Brigitte Bardot. Au dernier moment, Brigitte avait un mal de gorge terrible. Elle a appelé Mariti Carpentier, qui m'a appelé la nuit. Et elle me dit, et Mariti m'a dit, est-ce que Chantal, je sais que Chantal faisait du cinéma à l'époque. Elle ne faisait pas de la chanson. Et je lui ai dit, écoute, je peux lui écrire une chanson, mais on ne peut pas enregistrer avant demain. Demain matin, et le lendemain matin, j'avais fait « Adieu les jolis foulards ».
Voilà, et Jean-Jacques Goya continue à remplir les salles, et ben les bacs sont pleins de ce « Il chante Jean-Jacques Debout » chez Marianne Melody, avec toutes ces chansons que vous avez écrites, et qui continuent à vivre comme vous, pour notre bonheur. Jean-Jacques Debout, continuez, surtout ne changez rien.
Merci.
Merci d'avoir participé à ces clés d'une vie, et vraiment, vos chansons, on vous reconnaît à la virgule près, à la note près. C'est assez exceptionnel.
Ah bah ça me fait plaisir.
Et nous, ça nous avait plaisir de vous avoir. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie. Et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci et à demain.